Chers auditeurs et auditrices, bienvenue au journal en français du studio Kalangu. Rafika Taher au micro. À la une ce 27 juin 2023, demain, les fidèles musulmans célébreront la fête de la Tabaski. Quelques recommandations religieuses autour de l'immolation de l'animal le jour de la fête avec un prédicateur dans un instant. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a procédé hier au lancement du rapport mondial sur les drogues 2023 à Niamey. Vous suivrez le président de la Commission nationale de la coordination de lutte contre la drogue au Niger. Le magazine de cette édition va porter sur la vie des déplacés de l'île de Garidjo dans la région de Tillabéri après leur retour volontaire dans leur localité. Comme annoncé dans les titres, la fête de la Tabaski au Niger, c'est demain. Avant l'immolation de l'animal le jour de l'Aïd El-Kébir, il est recommandé d'observer certaines conduites, comme rester à la mosquée, écouter les prédications jusqu'au sacrifice de l'animal par l'imam. Oustaz Mustapha Ahmadou, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger, nous fait le point au micro du studio Kalangu.
Sans les savoir, ils sont en train de perdre l'essentiel des récompenses, des hasanats qu'ils devraient avoir à l'occasion de ces jours mémorables. Parce qu'en fait, égorger les moutons, c'est en troisième position que ça vient. La première des choses, le jour de la fête, effectivement de bien s'habiller et maintenant se diriger vers la mosquée avec la prétention d'écouter les messages intégralement de la fête. Écouter l'imam jusqu'à la fin et attendre que l'imam donne l'ordre. Égorger les moutons par l'imam, c'est ça, l'ordre a été donné. Donc, tant que ce guide-là n'a pas donné l'ordre et que tu exécutes carrément hors les principes pour lesquels on égorge. Parce que l'Eid, c'est la prière, c'est la khutba.
Quelles sont les invocations qu'on doit dire lors de l'immolation?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Quand tu quittes chez toi, c'est le slogan que tu fais jusqu'à la mosquée et jusqu'à les retours. Maintenant, à l'égorgement, tu dis, Seigneur, ça, c'est mon sacrifice, moi, un tel fils d'un tel et ma famille. Et tu dis, Bismillah, Allahu Akbar, et tu égorges. On veut que tu fasses ça toi-même.
Est-ce qu'une femme peut égorger le mouton?
Les contraintes annulent certaines obligations. Elle a une bonne intention, mais que son intention est handicapée par le manque des hommes à côté au moment où il faut. Elle peut le faire, mais sinon, ce n'est pas indiqué. Je n'ai pas dit que c'est interdit ainsi.
La fête de Tabaski au Niger rime avec la grillade des animaux immolés. Des associations de promotion de l'environnement sensibilisent les populations sur le bien fondé de préserver l'écosystème. Depuis 2018, les ONG demandent de griller les animaux avec du charbon minéral et non du bois de chauffe. La campagne prend de l'ampleur selon Dare Hamani, président de Agir pour un environnement et un développement durable. Il est au micro de Fatima Lemiaro.
Un sac de 40 kg peut griller 4 moutons. Donc, le sac de 40 kg coûte moins cher, 2500 francs. Alors que avoir une tonne de bois, il faut aller jusqu'à 7000 ou 8000. Ou bien un charbon de sac de bois énergie, il faut aller jusqu'à 10000 ou bien 8000. Et nous mettons cette initiative ensemble, nous pouvons sauver notre environnement. Nous avons des impacts très positifs sur le terrain. On sent que l'initiative prise depuis 2018, au lieu d'utiliser des piquets en bois, les gens utilisent des piquets en fer maintenant. Ensuite, les gens utilisent des foyers améliorés et tout ça pour éviter l'utilisation du bois. Le jour de la fête de Tabaski, un mouton sacrifié, un arbre planté.
À cette occasion de la Tabaski, beaucoup d'animaux seront immolés. Après, l'on constate une consommation abusive de la viande par certaines personnes. Cette consommation peut-elle avoir des conséquences sur la santé? Réponse de Abdelrazak Bello, nutritionniste au micro de Gungu Mohamed Dantani.
Parmi les conséquences de la consommation exagérée de la viande, on peut citer les nausées et les lourdeurs digestives. Ce sont les premiers signaux. Après les nausées et les lourdeurs, on a la conséquence qui est la plus connue, c'est la survenue des troubles digestifs, la fête de Tabaski. La consommation exagérée de viande fatigue l'organisme. Et pour certaines personnes qui sont sensibles à la consommation exagérée des épices, ce mélange viande plus graisse plus piment entraîne des troubles digestifs. Et dans l'ambiance générale de la fête de Tabaski, on est souvent appelé à négliger ses prescriptions alimentaires, notamment lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on souffre d'ulcère ou lorsqu'on a une hypercholestérolémie, il faudrait qu'on puisse faire attention même le jour de la fête. Donc, les personnes qui souffrent de diabète, il faudrait également faire attention. La viande soit associée à des produits d'origine végétale. La consommation des fruits et légumes, il y a cet aliment-là qui est très connu, la date.
Après les 10 jours accordés par la société nigérienne d'électricité d'Agadez aux populations pour la fin des coupures d'électricité, la situation semble ne pas évoluer. Une autre panne vient de prolonger les coupures de la ville. Les populations victimes de ces coupures expriment leur ras-le-bol au micro de Moussa Maman.
Nous, on est des coiffeurs et on travaille beaucoup avec l'électricité. On parlait de 10 jours d'interruption. Présentement, on a dépassé ces 10 jours. Et nous avons appris qu'on va augmenter 10 jours encore. On est dans une situation difficile. Même si tu as un groupe électrogène, il va consommer du carburant aussi. Et tu risques de ne rien gagner. C'est vraiment difficile pour nous, cette situation. Moi, je fais le lavage pressing. Il y a tout un tas d'habits de clients entassés dans mon pressing. Certains ont plus de 15 jours. Depuis que la coupure a commencé, j'avais déjà des habits en instance pour le lavage. Et voilà que la coupure perdure pour mes clients. Il va falloir qu'ils viennent récupérer leurs vêtements.
J'ai des ordinateurs avec lesquels je travaille. J'ai fait des téléchargements et autres. Maintenant, mes activités ont pris du recul. Même si vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, vous allez tout simplement mentir. Nous avons aussi des réfrigérateurs qui sont tombés en panne à cause des coupures intempestives d'électricité.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a procédé hier au lancement du rapport mondial sur les drogues 2023 à Niamey. Il ressort du dit rapport que la demande, la production et la consommation de la cocaïne, du cannabis ou d'autres drogues ont considérablement augmenté au Niger, dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le président de la Commission nationale de la coordination de lutte contre la drogue au Niger, Ousmane Beydou, explique au micro de Mokhtar Hamadou.
Dans l'arsenal juridique nigérien, la drogue représente un produit prohibé. Donc la consommation et le trafic illicite de drogue sont des infractions à la loi pénale. En fait, quand on utilise le terme illicite, c'est parce qu'il y a des produits pharmaceutiques, beaucoup d'ailleurs, qui contiennent de la drogue. Et normalement, pour tous ces genres de produits, il faut une autorisation, donc une ordonnance pour les acheter, une autorisation aussi pour les importer. Quand c'est importé sur autorisation, c'est pas illicite. Mais même si c'est un pharmacien, quand il importe sans autorisation, il fait du trafic illicite. Donc quand c'est illicite, c'est une infraction à la loi pénale qui fait encourir des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans. On est en train de chercher à voir ce qui ne marche pas. C'est pour cela que vous avez vu dans le thème de cette année, on a dit de renforcer la prévention. Mettons les gens avant tout, mettons fin à la discrimination et à la stigmatisation en renforçant la prévention. En fait, s'il y a le trafic, c'est parce qu'il y a la consommation. La consommation augmente, donc la demande augmente, c'est pourquoi le trafic prend de l'ampleur.
En bref, le Niger lève à compter d'hier 26 juin les restrictions liées aux tests rapides PCR et à la vaccination contre la COVID-19 à l'arrivée et au départ de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Selon les autorités sanitaires, cela s'explique par la levée de l'urgence de la santé publique de portée internationale de la COVID-19 en date du 5 mai 2023, de la situation épidémiologique en Afrique actuellement marquée par une baisse remarquable de la circulation du virus depuis quelques mois et du faible taux de positivité des tests depuis 6 semaines. Pour subvenir à ses besoins, Khadija Harouna, une dame d'une trentaine d'années de la ville de Baleyara, pratique l'activité de coiffeuse traditionnelle. Selon elle, elle gagne en moyenne 4 000 à 10 000 francs CFA par jour pour ses prestations. On l'écoute au micro de Mamat Dandakoy.
Je fais les tresses parce que je me suis rendu compte que le fait de rester sans rien faire ne me servira à rien. Lorsque je fais les tresses, j'arrive à gagner de l'argent et satisfaire mes besoins. Je fais plusieurs modèles de tresses traditionnelles. Je fais les gros grés, les restas. Je n'ai aucune difficulté car j'arrive à avoir de quoi subvenir à mes besoins. Mes autres sœurs, l'appel que je leur lance est que celles qui font des métiers, de persévérer parce que le fait de rester les bras ballants ne sert à rien. Si tu arrives à gagner 2 500 francs par jour, tu peux subvenir à tes besoins. Il n'y a pas ce que je n'ai pas eu comme bénéfice, parce que par jour, je peux gagner 4 000, parfois jusqu'à 10 000, quand je n'ai pas beaucoup de clientes. Alors, avec mes 10 000 francs, au lieu d'aller tendre la main à quelqu'un, je peux aller subvenir à mes besoins sans que personne ne le sache. Alors que si je ne travaille pas, ce ne sera pas le cas.
L'équipe du Niger U23 qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie au Maroc rencontrera demain à Tanger pour son deuxième match le Gabon. À l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match ce matin, le sélectionneur Zakariaou Ibrahim a déclaré que l'objectif est de prendre les 3 points et poursuivre la compétition. Propos recueillis par notre envoyé spécial Salamatou Kadri.
Nous allons jouer demain, Inch'Allah, contre le Gabon. Un match que nous abordons avec sérénité. Nous sommes toujours dans notre logique. L'objectif, c'est de gagner les 3 points et avancer. Les défis sont énormes, les défis sont nombreux. On sait que ça ne va pas être un match facile. Le Gabon, comme je le disais tantôt, a certes perdu, mais ils ont de la qualité, il faut le reconnaître. Et ils ont joué aussi à 10 contre 11, parce qu'il y a presque une partie du match, c'est qui a déséquilibré cette équipe. Donc nous, on va tout faire en tout cas pour déjouer cette équipe et prendre les 3 points, Inch'Allah. Nous sommes venus à 26 joueurs, des joueurs qui se valent. Donc il n'y a aucun problème, nous allons composer une très bonne équipe qui va vraiment représenter notre pays.
Les attaques des groupes armés de la région de Tillabéri depuis 2017 ont causé des déplacements internes. Plus de 150 000 personnes déplacées selon le ministère de l'Action humanitaire en 2022. L'État du Niger a choisi l'option du retour volontaire des PDI dans leur localité d'origine. Le village de Garidjo, dans le département d'Ayorou, fait partie de ces villages dont la population a accepté la proposition des autorités. Comment ces personnes vivent après leur retour volontaire ? Réponse dans ce reportage d'Adama Dawaki.
Garidjo est une île située dans la commune rurale de Ayorou, région de Tillabéri. Ce village se trouve à 40 minutes de navigation de pirogue du chef-lieu de la dite localité. La pêche et la commercialisation du poisson sont les principales activités des habitants de l'île. Aïssa Moussa, habitante du village, indique que leurs activités génératrices de revenus sont au ralenti comparativement aux années antérieures. La population dit n'avoir jamais vécu une telle situation depuis son installation dans ce village il y a 56 ans.
Jusque-là, notre culture n'est pas totalement complète. Nous faisons le commerce du poisson et parfois nous achetons du poisson qu'on fait frire et qu'on revend, même si ça ne marche plus comme avant. Et quand les enfants qu'on envoie vendre tardent à revenir, on s'inquiète beaucoup.
Tout comme Aïssa Moussa, Rukaye Abdou est né et a grandi à Garidjo. L'insécurité qui a débuté en 2017 l'a contraint à quitter le village. Rukaya et d'autres personnes ont quitté Garidjo pour la ville d'Ayorou en 2023. Ils ont été installés à l'hôtel Amnol Kal, qui sert de site pour accueillir les déplacés internes. 14 jours après son arrivée, Rukaya décide de rentrer volontairement chez elle.
La nuit, nous entendons des tirs. Nous voyons des étincelles. On a beaucoup paniqué. Nous avons approché nos maris. C'est ainsi que nous avons quitté pour venir à Ayorou. Durant ces 14 jours, nous dormons à la belle étoile. Le jour, nous sommes sous le soleil. Les hommes qui ont des moyens cherchent quelques fagots pour dresser des bâches pour leur famille. Nous préférons dormir sous les arbres ou dans les chambres, malgré la chaleur.
Cette insécurité a impacté l'éducation des enfants. C'est le cas de Adamou Mamoudou, élève en classe de terminale.
On a fait presque une semaine, sinon plus, sans étudier. Les jeunes n'ont pas où se loger, à plus forte raison d'étudier.
Des moyens nécessaires ont été mis en place pour un retour volontaire des s'est déplacé, souligne Idrissa Adamou, secrétaire général de la préfecture de Ayorou.
Nous sommes vite organisés. Le grand nombre venait un peu puisque ce sont des villages insulaires qui étaient touchés. On a mis un comité d'accueil qui recensait tous ceux qui arrivaient. On s'est mis aussitôt au travail pour pouvoir les mettre dans des conditions. On a placé une équipe médicale pour les soutenir.
Vivres et kits non alimentaires ont été distribués aux déplacés internes du village de Garidjo. Rukaya Abdou témoigne de l'assistance reçue.
Mon mari a reçu un demi-sac de mil, un demi-sac de riz avec 5 litres d'huile. On nous a aussi donné un sachet avec 2 pièces de pain et 3 couvertures, un seau d'eau, une bassine et 2 marmites.
Sur le plan sécuritaire, des équipes mobiles des forces de défense et de sécurité sont déployées dans ces villages pour sécuriser la population et leurs biens, indique Idrissa Adamou, secrétaire général de la préfecture.
L'État a mis dans les îles des militaires pour les sécuriser. Et depuis leur retour, vraiment, on sent qu'il y a une amélioration des choses.
Adamou Alou, chef du village de Garidjo, témoigne du retour de l'accalmie dans son village.
Il a été dit de m'informer que si la situation de la sécurité persiste, Garidjo nécessite le déploiement des forces de défense et de sécurité. Je leur ai répondu de prendre patience, il n'y a rien. Ils ont dit où en sommes-nous alors? Je leur ai répondu que tout va bien.
Grâce à leur détermination, Rukaya, Aïssa et les autres habitants reprennent vie.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.